ce soir, c'est Daniel Bellon et Demita Colonia qui vont nous présenter leur travail. Et donc, Daniel Bellon vient de Toulouse, elle est enseignante au Collège clinique du Sud-Ouest et en l'école AME. Et elle va commencer avec son travail qui s'intitule Béance de l'invention, impossible dans la politique.
J'ai trouvé ce thème à la fois difficile et très vaste. Je pense que vous en avez déjà beaucoup entendu parler. Donc j'ai pris les choses, j'ai essayé de mettre en perspective le point, enfin c'est ce que j'ai essayé de dégager, le point de jonction et d'articulation entre ce qui fait le plus particulier du sujet et en même temps l'essence du collectif. Voilà, donc je suis partie donc de façon large sur la question de la politique de l'école telle que Lacan l'a fondée en lien avec sa conception de l'inconscient, donc une politique, disons, d'école, de psychanalyse, et j'ai essayé de dégager quelques points dans chacun des registres du symbolique, de l'imaginaire et du réel qui sont les éléments de la structure à la fois du sujet et qui se retrouvent aussi dans la politique. Alors donc, j'ai donc appelé ça « Béance de l'inconscient impossible dans la politique ». Il m'a semblé que des deux côtés, on était au cœur de l'impossible. Alors, quand Lacan dit en 1967 dans le séminaire La logique du fantasme, l'inconscience et la politique, il se réfère à la logique du signifiant, c'est la théorie de l'inconscient langage. Bon, je crois que ça a été déjà souvent évoqué. Donc la structure du signifiant, c'est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant, le sujet est pris dans une chaîne signifiante. Cependant, Lacan n'aura de cesse de répéter que l'eau du langage qui traverse le sujet dès sa naissance laisse des marques de jouissance, lettres, traces, à partir de quoi se fait le joint entre le langage et le corps, d'où se cristallise le symptôme. Une partie est déchiffrable, une autre reste hors sens, inatteignable, au moins par le langage. Occulte, comme le dit Lacan dans le séminaire « L'élan du peur ». Occulte ne veut pas dire caché, le caché peut se trouver, se dévoiler et prendre sens car il est pris dans le discours. L'occulte se rencontre, on s'y heurte. C'est la part la plus profonde de l'inconscient, hors de la maîtrise. Elle fait à la fois bord et trou. Ce n'est sans doute pas étranger à ce qui est à l'origine de l'horreur de sa voix et c'est aussi au cœur de la politique.
Est-ce que vous pouvez approcher un peu le micro?
C'est sûr qu'il est allumé.
Oui.
Vous l'approchez.
Oui, d'accord. Ça va mieux? Alors, ce n'est sans doute donc pas étranger la question de l'horreur de sa voix. Freud déjà dégageait trois impossibles, gouverner, éduquer, psychanalyser. Lacan est allé plus loin et a formalisé ce point de structure en se servant de la logique mathématique et avec l'écriture des nœuds borroméens. Il n'y a pas de rapport sexuel qui puisse s'écrire, il y a un réel irréductible, pas de complétude possible, il manque un signifiant qui permettrait d'écrire le rapport entre les sexes. Ce point structure de l'inconscient, ossature du sujet dans ce qu'il a de plus particulier, Lacan en a fait un point fondateur pour son école, pour un collectif donc, pour une politique. Un choix décidé et éclairé. La politique, en effet, suppose une visée, des choix, des moyens, des actes, une éthique. Le mot cardo, ou gon, c'est-à-dire ce qui représente un point fixe, un point d'articulation, qui permet un battement, une ouverture ou une fermeture, me paraît représenter le point de passage entre le particulier et le groupe, au moins pour l'école de psychanalyse, fondée par Lacan, et certaines de celles qui ont suivi, et la nôtre en particulier. Peut-être aussi ce qui est à l'œuvre dans la politique au sens plus général. J'ai trouvé trois occurrences où apparaît le mot Cardo dans l'enseignement de Lacan. Peut-être y en a-t-il d'autres. La première, en 1964, dans l'acte de fondation, il appelle ainsi le comité d'accueil chargé de recevoir les candidatures à cette nouvelle école. Je le cite, il dit « cardo », c'est-à-dire « gon », dit en latin, ce qui en indique l'esprit. En 1967, dans la proposition pour la passe, en créant le dispositif de la passe, il fait un choix politique qui permet d'éclairer le cœur de la psychanalyse en intention, émergence du désir du psychanalyste, et en extension, transmission et place de la psychanalyse. Bon, je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Le cartel, groupe nouveau dans sa structure de fonctionnement, est l'autre dispositif de base de travail. Lacan dit qu'il vaudrait mieux dire « cardo », ce qui en indique l'esprit, peut-on en rappeler. Et puis en 1973-74, il réemploie ce terme dans la leçon du 15 janvier 1974 du séminaire Léonard du Peuer, quand il travaille la question de la vérité de façon renouvelée par rapport à la logique d'Aristote, la logique formelle. Il précise que « cardo » désigne le nombre cardinal, c'est-à-dire le nombre d'éléments dans un ensemble. On passe à un autre mode de logique mathématique. On n'est plus dans la même logique. Dans le séminaire Empire, il s'était déjà appuyé sur la logique propositionnelle de Frege pour cibler le réel. Donc à partir des textes fondateurs de Lacan, qui sont encore aujourd'hui donc nos textes de référence, je vais essayer de dégager quelques points de structure qui m'ont paru être à la fois des appuis et aussi les failles du sujet, qui sont aussi mis en jeu dans la politique. J'ai donc fait un choix, que ce soit pour un sujet, un collectif, pour une société ou une civilisation, toutes les solutions trouvées pour répondre au malaise, comme dirait Freud, ne se valent pas. Elles peuvent l'accentuer, le creuser ou le réduire. Et les conséquences pour les sujets n'en sont pas les mêmes. Donc j'ai repris les différents textes de référence pour essayer de mettre en exergue ce point-là. Donc, en premier, l'acte de fondation, alors ce sont des choses que tout le monde connaît, hein, mais ça m'a semblé important de ressouligner certains points. Dans l'acte de fondation du 21 juin 1964, bon, vous savez que Lacan dit « Je fonde aussi seul dans ma relation à la cause analytique l'EFP dont j'assumerai la direction. Ce ne sera pas une chefferie, il n'y aura pas de hiérarchie. » Donc là, il y a déjà un point de choix politique. Alors, ils fondent donc l'organisme et non pas l'institution. Doit s'accomplir un travail pour faire vivre le socle tranchant de la vérité. Le mode de travail sera le cartel. Il y aura une sélection à l'entrée dont il remet la charge dans le comité d'accueil. C'est à contre-courant de ce qui se faisait jusque-là. C'est une façon nouvelle de prendre en compte le réel, de contrer l'inflation imaginaire, de souligner les dérives toujours possibles vers l'idéologie, de lutter contre, je le cite, « l'enquistement de la pensée et la tendance à se couler dans l'économie régnante ». Donc voilà donc des écueils soulignés, pris en compte, dont on voit déjà qu'ils touchent à l'imaginaire, au symbolique et au réel, une façon d'organiser l'imaginaire et le symbolique en tenant compte du réel. Dans la proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l'école, il y a un réel enjeu dans la formation du psychanalyste. Il ne s'agit pas de le voiler, mais de trouver le moyen de prendre en compte le défaut, l'abéance. Lacan en fait donc le point de rencontre entre la psychanalyse en intention et la psychanalyse en extension. Il invente la passe comme dispositif qui permet de recueillir les témoignages au plus près de l'inconscient du sujet et de ce qui fait le passage du psychanalysant au psychanalyste. Passage essentiel pour une école de psychanalyse, pour définir sa politique, son orientation. Donc je le cite, on revient sur le cardo. Il ne dit pas cardo à ce moment-là, mais en fait il parle de gong. Alors ce passage, comme nous le savons tous, a une porte, dans ce reste qui fait leur division et le gant, car cette division n'est autre que celle du sujet dont ce reste la cause. Cela ouvre un courage à un travail de doctrine dont la béance est le centre, dont l'horizon ne doit pas être obturé. Lacan énonce trois points de fuite perspectifs qu'il appelle trois facticités, chacun correspondant aux trois registres qui fondent le sujet. Au niveau du symbolique, il y a la facticité d'un mythe. Le mythe d'Œdipe est fondateur, sans quoi la psychanalyse en extension devient tout entière justiciable du délire du président Schreber. Pour autant, il ne s'agit pas d'en faire une idéologie. À partir de la castration de l'Œdipe, on pourrait chercher à imposer ce qui serait bien ou mal concernant la famille, par exemple. Lacan est allé au-delà de l'Œdipe, comme on le sait, avec le nouage par la nomination, dire, renouvelant la conception de Freud du père. Du père, on peut s'en passer à condition de s'en servir, comme Lacan le dit dans le séminaire sur Joyce, le symptôme. Au niveau de l'imaginaire, Lacan situe la facticité de l'unité. Certaines structures de groupe y renvoient, telles l'Église et l'armée, comme Freud l'a développé. Les identifications imaginaires y sont privilégiées, ainsi que la mise en fonction du père idéal. On peut noter que le cartel vient à l'encontre de ce modèle. Et au niveau du réel, la facticité dite réelle, trop réelle, celle du camp de concentration, qui ira se développant, comme dit Lacan, comme conséquence du remaniement des groupes sociaux par la science et nommément de l'universalisation qui est introduite. Les procès de ségrégation sont à l'horizon de cette évolution, notre avenir de marché commun. On y voit à l'œuvre la négation ou le refus de la différence, ce qui est antinomique avec la psychanalyse. Discours à l'EFP du 6 décembre 1967. Pour notre propos, je retiendrai surtout trois points. En premier, le risque d'inflation imaginaire avec la mise au premier plan des narcissismes et ce que j'appellerais aussi un avertissement, je cite Lacan, infatuation et prudence ne doivent pas faire office d'organisation. Deuxième point, la différence, Lacan insiste là-dessus, entre seul et être le seul, qui est tout à fait fondamentale. Cette pensée que seul équivaut à être le seul, Lacan souligne que c'est une interprétation qui a été faite par certains, qui relève de l'imaginaire, pour se protéger de l'angoisse, car le petit à cause du désir peut être à la merci de l'autre. Tout peut s'originer là. Troisième point, la haine, qui a accueilli parfois, par les psychanalystes même, le discours de Lacan. Pourquoi ? Il répond, parce qu'il touche à l'intolérable, à la jouissance et à, je le cite, l'acte qui ne supporte pas les semblants. L'inconscient, lui, ne fait pas semblant. S'adressant au groupe italien dans la note italienne en 1974, Lacan redit les éléments clés de là où il en est arrivé au niveau théorique, que cela concerne l'analyste ou le groupe analytique, et c'est évidemment politique. Je le cite, c'est du patou que relève l'analyste, et aussi, pour que le groupe fonctionne, il faut du réel tenir compte. La difficulté, c'est que l'analyste loge un autre savoir que celui de la science. Ce savoir est habituellement refusé ou rejeté. Donc on en fait tous l'expérience. L'analyste doit donc lui-même être arrivé au point de pouvoir cerner la cause de sa propre horreur en lui de savoir. Et supporter ainsi d'être le rebut de la dite humanité, et que ça le porte à l'enthousiasme. Car l'humanité se situe du côté du bonheur, du côté de ne rien vouloir savoir, du côté de la croyance en l'harmonie, avec les retours du réel que cela induit parfois. Alors, une nouvelle version du réel apparaît dans la préface à l'édition anglaise du séminaire 11, 7 mai 76. On court après la vérité menteuse, nous dit Lacan, mais pour l'analyste, la butée sur le réel vient arrêter cette course, qui pourrait être sans fin. je le cite, le manque du manque fait le réel qui ne sort que d'un bouchon. Ce bouchon que supporte le terme de l'impossible. La passe permet de saisir cela à partir du témoignage de l'expérience de ceux qui s'y risquent. Pas tous, car il n'y a pas de tous pareils. Il n'y a que des épars, des assortis, ce qui va dans le sens de ce que dénonçait déjà Lacan de l'unité impossible dans la proposition pour la passe en 67. Alors, la lettre de dissolution de l'EFP du 5 janvier 80 marque à la fois un constat et une rupture, me semble-t-il. Le sujet qui parle est le sujet de l'inconscient, quoiqu'il veuille s'en défendre. Ce n'est pas le sujet de la pensée. Il y a un fossé entre les deux. Les lapsus ne manquent pas de venir en témoigner au moment où l'on s'y attend le moins. Le sujet de l'inconscient, c'est le sujet de la parole. Et les effets de discours peuvent entraîner les effets de groupe. Ce qu'il souligne pour cette école qu'il dissout maintenant. Il constate que la psychanalyse y a viré au sens, ce qui la ramène du côté de l'Église, de la religion. En effet, le sens est toujours religieux. La cause aura son école sur les mêmes bases que celles déjà définies. Lacan le déclare dans la lettre de la cause freudienne le 23 octobre 1980. Rien de nouveau, il y a du refoulé, toujours, c'est irréductible. Élaborer l'inconscient comme il se fait dans l'analyse n'est rien qui produire ce trou. Si ce n'est peut-être à ce moment-là, c'est ce qui fait Lacan, évoquer la mort, le réel de la mort qui ne se peut regarder en face. Quelle garantie alors pour l'analyste et pour l'école, si ce n'est celle des analystes eux-mêmes, des AME, des AE, qui passent, pour maintenir le cap d'une école qui ne vire pas à la religion, à la secte, à la dictature. Lacan n'a eu de cesse d'insister sur le fait que les trois consistances, symboliques, imaginaires, réelles, étaient équivalentes, qu'il n'y en avait pas une qui devait prévaloir sur l'autre, sans effet problématique pour le ou les sujets, un groupe ou une société, et qu'elle se noue autour de A, autour d'une petite A, espace vide, trou, comme il l'a écrit avec les nœuds borroméens en particulier. Alors, dans chacun de ces champs, j'ai choisi de développer un point qui m'a semblé pouvoir éclairer la prise du sujet contemporain dans sa culture, la culture occidentale et certaines des questions auxquelles nous sommes prises en particulier dans l'actualité. Alors, au niveau du symbolique, donc je ne reviens pas sur le langage, la parole, le signifiant, mais je vais tenter de dire quelque chose sur les discours qui, articulant, signifiant et jouissance, déterminent des liens sociaux spécifiques. Donc Lacan en rappelle la définition lors de la conférence à l'université de Milan, le 12 mai 72. Le discours, c'est quoi? Je le cite. C'est ce qui, dans l'ordre, dans l'ordonnance de ce qui peut se produire par l'existence du langage, fait fonction de lien social. C'est difficile de parler de politique sans parler de lien social. Il y a donc, bon là ce sont des choses que tout le monde connaît, donc je le dis très rapidement. Il y a donc quatre discours que Lacan a écrits en 69-70, après mai 68 donc, et les remises en question concernant en particulier l'université, son enseignement. Donc il a écrit les discours dans le séminaire L'envers de la psychanalyse, auquel il ajoutera le discours du capitaliste en 1972 dans cette conférence. Du moins, c'est là que moi j'ai trouvé ces références, il y en a peut-être d'autres. Alors, les quatre discours sont constitués à partir de quatre places. Donc, je l'écris comme ça, mais ça, je pense que vous l'avez compris. L'agent, dessous la vérité, de l'autre côté, donc, l'autre, le petit autre, là, dessous la production. Sur lesquels se positionnent quatre lettres selon les discours. Est-ce le signifiant maître? Est-ce de le savoir? Est-ce barrer le sujet? A le plus de jouer. Dans les entretiens de Sainte-Anne en 1977, Théon 72, dans la leçon du 3 février 72, Lacan revient sur l'écriture qu'il écrit sous forme de tétraèdre des discours en précisant autrement les quatre sommets. À ce moment-là, en place d'un Jean, il précise le semblant, en place d'autre la jouissance, en place de plus de jouir la production et la vérité, qui garde la même nomination de vérité. L'accent est mis sur le semblant, car comme il le dit encore à Milan, il n'y a aucun discours possible qui ne serait pas de semblant. C'est un des éléments de ce qui lie les hommes entre eux et en dit la nature profonde. Alors, si l'on regarde les quatre discours, et dans la conférence à Milan, qui situe le discours du capitaliste, c'est la question du discours du capitaliste qui m'a intéressée de voir de plus près, étant donné que nous sommes en plein concernés par cette question. Alors, en place d'agent, ici, donc, il y a le S barré, on peut noter comme dans le discours de l'hystérique. En place de vérité, S1, comme dans le discours universitaire. En place d'autre, S2, comme dans le discours du maître. Et en place de production, petit a, comme dans le discours du maître également. J'ai trouvé intéressant de constater que le discours analytique dans cette écriture, au moins au niveau des places, n'était pas représenté. Et que le discours du maître était prévalent, c'est-à-dire qu'on retrouve la même disposition dans le discours du capitaliste que dans le discours du maître ici. Le discours du maître, ça marche du fait qu'il y a du langage, du signifiant, de l'homme. Dans cette conférence à Milan, Lacan dit que le discours du capitaliste est le substitut du discours du maître. Alors, j'ai lu un texte que vous avez peut-être lu dans l'enjeu numéro 28 qui s'appelle « Des passions », un article qui concernait le discours du capitaliste justement par Bruno Moroncini qui est un philosophe italien. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Donc lui, il parle de ce serait le discours du maître moderne. Alors, Lacan ajoute que le discours du capitaliste, qui n'est pas moche, mais follement astucieux, il nous dit qu'il est voué à la crevaison. Il marche tellement bien, parce qu'il y a une inversion entre le SEM et le S barré, que c'est intenable. Je le cite, il dit « ça se consomme si bien que ça se consume ». On peut noter que, à la différence du discours hystérique, S barré ne produit pas un savoir comme dans le discours hystérique, mais du petit a de la jouissance. Donc, le S barré qui est aux commandes ne produit donc pas un savoir, mais du plus de jouir. Il fonctionne comme une injonction à la jouissance. On peut remarquer aussi que si les quatre discours s'écrivent en faisant tourner les lettres d'un quart de tour, le discours du capitaliste fait rupture avec cette logique. Une des fractions est l'envers du discours du maître, l'autre l'envers du discours de l'analyste. Lacan dit qu'à chaque changement de discours peut venir l'amour. Il est à noter que le discours du capitaliste n'est pas pris dans cette ronde. Il semble que le sujet du désir esparé et le plus de jouir sont ici comme déconnectés, non reliés par le fantasme. On voit qu'il n'y a pas de possibilité de passage du esparé vers le A. Non, les lettres ne sont pas reliées par la flèche de l'impossible ou la barre de l'impuissance. Comme si le sujet pouvait rejoindre la jouissance. N'y aurait-il donc aucune limite à ce pousse à jouir dans le discours du capitaliste? Cependant, il faut rappeler avec Lacan un impossible, celui du fait que la jouissance est interdite à qui parle comme tel. L'impératif joui est donc accompagné, quoi qu'on fasse, d'un tu ne peux pas, de structure, qui est différent d'un tu ne dois pas, du tu ne dois pas, du sûrement. Il y a donc de toute façon un reste, cette perte première de jouissance que les objets pulsionnels viennent habiller, se faisant le support du fantasme. C'est une perte inéliminable et incomblable. C'est ce que souligne aussi Bruno Morosini dans l'article déjà cité. Donc je le cite. On pourrait croire que le sujet désirant se réalise lui-même à travers la consommation des objets. En fait, c'est lui-même qui se consomme, qui disparaît. La consommation écrase le désir. La psychanalyse le fait réapparaître, réintroduit le sujet. Alors, une très courte vignette clinique me paraît illustrer ce point. J'ai pensé à ce petit moment clinique qui m'a paru éclairant. Une jeune fille évoqua dès le début de son analyse, il n'y a pas si longtemps, 2 ou 3 ans, 2 souvenirs marquants. Le premier, un moment d'angoisse, alors qu'elle est au cours préparatoire, elle se revoit figée, bloquée, tout à fait angoissée, incapable de faire un exercice. De quoi s'agissait-il ? Il s'agissait de compléter une phrase à trous, un exercice classique de début d'apprentissage de la lecture, qui par ailleurs ne lui posait pas de problème. Le deuxième souvenir, donc, un énorme caprice, elle était coutumière, parce qu'elle avait eu un jouet pour Noël qui s'avère ne pas fonctionner. Elle exige d'aller l'échanger tout de suite. Son père s'exécute, ce qui ne manque pas quand même de la surprendre avec le recul maintenant. Actuellement en difficulté pour trouver un partenaire, elle s'adresse à ce que la modernité, je dirais, et le marché offrent. Elle cherche à trouver, il m'a semblé, ce que David Bernard appelait à Bordeaux, son complément d'objet direct. Elle passe par les sites de rencontres, mais ça ne fonctionne pas. Elle constate qu'ils, les hommes qu'elle choisit, consomment puis la jettent. Je la cite. Elle réalise alors que c'est l'image être beau et intelligent qui pourrait le faire rencontre, et que l'enjeu est d'être, elle le dit comme ça, comblé narcissiquement. Les questions pour elle se précisent. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'image ? À quelle place je mets le partenaire ? À quelle place je me mets ? La question de l'objet et du manque apparaît sous un jour nouveau et plus clair. Elle fait le lien avec sa position infantile et sa difficulté à supporter le manque, comme on l'a vu dans les 3 registres réel, imaginaire et symbolique. Je pense qu'on peut retrouver privation, frustration, castration. Il y a émergence du fantasme et du ressort de la répétition qui fait symptôme. Oui, bien sûr, il y a tout le travail reste à faire. C'est un temps important du début d'analyse, mais on est encore loin du bateau, si je peux le dire comme ça. Cependant, sa position subjective a quand même changé. Bon, je ne vais pas développer ça. Donc, rappelons, comme cela a été dit à Bordeaux, que le discours capitaliste évacue la dimension de l'amour et qu'il s'origine d'une mise au rencard du réel du sexe. Donc, comme le dit l'auteur dont j'ai déjà parlé, les savoirs psychologisants qui se développent, particulièrement à notre époque, cognitivisme, neurosciences, etc., sont un savoir, il le dit comme ça, cet auteur pestilentiel, au service du discours du capitaliste, car il cherche à évacuer ou guérir le symptôme, c'est-à-dire le malaise dans la civilisation, afin que, je le cite, se réalise en un mot le rêve de tout dictateur d'imposer à leur peuple un bonheur sans désir, une satisfaction sans manque et sans reste. Ceci au prix de l'annulation du sujet. C'est aussi ce qui se passe, ceux qui travaillent à l'institution en particulier peuvent le constater, ce qui se passe avec les managements gestionnaires centrés sur l'évaluation quantitative seule des performances, dont on commence à mesurer les effets destructeurs, semble-t-il, et finalement une inefficacité pour le but recherché. C'est particulièrement flagrant dans les structures de soins. Alors, au niveau de l'imaginaire maintenant, les discours donc, font lien social, mais l'imaginaire est aussi indispensable pour la construction d'un sujet, à partir du trait lunaire, de l'idéal du moi, et pour permettre que les sujets se lient entre eux, puissent faire groupe via l'identification. Car sans identification au groupe, je ne sais plus comment le dit Lacan, mais il a une formule assez saisissante. Oui. S'il n'y a pas l'identification au groupe, les sujets ils sont foutus à enfermer les êtres humains. Alors, l'identification permet la constitution du lien, mais aussi bien que le rompre, car elle est un des supports de l'investissement de la libido. Je vais souligner juste deux points. Dans le séminaire l'identification à partir du trait, du 1, se dégage, je cite Lacan, la fonction du signifiant comme étant le point d'amarre de quelque chose à partir de quoi le sujet se constitue. Et dans le séminaire 3 des psychoses, Lacan nous dit, ce qu'il a aussi développé par ailleurs, que la relation au narcissisme est la relation imaginaire centrale pour le rapport interhumain. C'est une relation érotique, de tension érotique. La saisie de l'autre par l'image se fait par la voie d'une captation érotique, par la voie de la relation narcissique qui est une source de tension agressive. Bon, je ne vais pas développer le stade du miroir. La fonction symbolique, quand elle est présente, vient la réguler, la pacifier. J'ai choisi de parler d'un autre point en particulier. Lacan, dans le séminaire « L'éthique de la psychanalyse », va plus loin que l'agressivité. Il parle de cruauté au cœur de l'être humain, comme l'avait déjà dit Freud. Dans la leçon 13 intitulée « La mort de Dieu », il rappelle que pour Freud, le meurtre est à l'origine de la culture. Mais il précise que le meurtre du père n'ouvre pas la voie vers la jouissance que la présence de celui-ci était censée interdire, mais au contraire qu'il renforce l'interdiction. Le mythe de totem et tabou rend visible cette faille interdictive. Dans Malaise dans la civilisation, Freud insiste sur le fait que tout ce qui est viré de la jouissance à l'interdiction va dans le sens d'un renforcement toujours croissant de l'interdiction. Et Lacan se pose la question, et qu'en est-il de l'amour du prochain, qui est un commandement dans notre civilisation, dans certaines civilisations, sur lequel bute Freud, nous dit Lacan dans la leçon 14. Alors il faut l'articuler aux élaborations qui mènent au fait que Dieu est mort, à son inexistence. Les bases du problème éthique en sont changées, car cela découvre que la jouissance est un mal, qu'elle comporte le mal du prochain. Freud rappelle que c'est ce que Lacan rappelle que c'est ce que Freud appelle justement l'au-delà du principe du plaisir, donc la pulsion de mort. C'est-à-dire, je le cite, la tendance native de l'homme à la méchanceté, à l'agression, à la destruction et donc aussi à la cruauté. Ainsi, l'amour du prochain peut faire surgir cette méchanceté foncière qui habite en ce prochain. Mais dès lors, elle habite aussi en moi-même. Et demande Lacan, qu'est-ce qui n'est plus prochain que ce cœur en moi-même qui est celui de ma jouissance dont je n'ose m'approcher? Car, et Freud a écrit le malaise dans la civilisation pour cela, rappelle Lacan, quand je m'en approche, je le cite, surgit cette insondable agressivité devant quoi je recule, que je retourne contre moi et qui vient à la place même de la loi évanouie, donner son poids, ce qui m'empêche de franchir une certaine frontière à la limite de la chose. Il y a une limite et donc un au-delà possible. Lacan, dans la leçon 15, la jouissance de la transgression, pose des questions. La jouissance de la transgression, en quoi consiste-t-elle? Et celle-ci aussi, si le sujet rebrousse chemin devant cette destrudo, quel est donc ce qui convoie le procès de ce retournement? Alors il répond, c'est l'identification à l'autre, au petit autre bien sûr, qui surgit à l'extrême de telle de nos tentations. Ainsi, nous reculons à attenter à l'image de l'autre, parce que c'est l'image sur laquelle nous nous sommes formés comme moi. Or, ça c'est... je constate qu'en principe, chacun cultive ce fil qui le relie à la vie. Freud parle d'un deuil et mélancolie, de la pulsion qui oblige tout vivant à tenir bon à la vie. Je me posais ces questions en réfléchissant, enfin, sur ce qui peut en être pour ce terrorisme de masse, finalement, qui ne recule pas à tuer et à se tuer. Au niveau imaginaire, nous sommes solidaires du fait de l'interdépendance de la constitution de soi et du semblable. Cela fait aussi le joint entre le plus particulier et le collectif, les autres, où se joue le destin de la pulsion de mort. Les enjeux en sont cruciaux. Ce sont des enjeux personnels, éthiques et politiques. Alors Lacan termine cette leçon sur le fait qu'au-delà du creux qu'il y a au cœur de l'image, ce que rencontre, me semble-t-il, la jeune fille dont j'ai parlé, il y a le vide de Dieu en perspective à découvrir. Donc le vide de Dieu à découvrir. Lacan l'a aussi écrit dans les débuts de son enseignement, et ce grand appareil, le roman d'écriture du graphe du désir. Rien ne vient répondre de ce point que l'on peut mettre en perspective avec le trou dans le savoir qui laisse l'homme dans le vide, dit Lacan toujours dans ce temps de l'éthique. Alors, au niveau du réel, c'est plus compliqué, donc j'ai essayé quand même de procéder quelques points, mais sans préciser, parce que c'est compliqué. Pour terminer, concernant le réel, petit a, dont il dit, Lacan dit, en forme de ce vide, je rappellerai juste, il faut du réel tenir compte. Supporter l'espace vide est crucial pour maintenir la dimension du sujet, de l'inconscient et du désir, lutter contre son asservissement ou sa destruction, maintenir l'espace de la parole et du dire. Bon, la question du réel a évolué au cours de l'enseignement de Lacan. Je m'en tiendrai là à ce qu'il reprend dans la leçon du 12 février 1974 du séminaire Les Noms du Peur. Il y a du savoir qu'il y a beau n'y avoir aucun sujet qui le sache, il reste être du réel. C'est un dépôt, c'est un sédiment. Il y a du savoir sans sujet. On a donc affaire avec ça. Et plus loin, le savoir inconscient, c'est de l'ordre de l'écrit. Alors, il synthétise cela dans l'entretien à Rome en 1974 avec Emilia Granzotto. Je le cite. « J'appelle symptôme tout ce qui vient du réel et le réel tout ce qui ne va pas. Le réel revient toujours à la même place. Et aussi, il dit, le réel, cette chose monstrueuse qui n'existe pas. » La psychanalyse doit rester au plus près de cela, de ce qui fait l'assise de la différence et de la possibilité, donc aussi, de vivre ensemble, un par un, mais aussi avec ses semblables. Bon, c'est un équilibre toujours à rechercher, jamais définitif et immuable, car ce que nous apprend la psychanalyse, c'est que le réel de la jouissance est au cœur du sujet dès par l'être. Elle est donc aussi active dans le groupe, dans les collectifs, dans les sociétés. Je pense qu'on peut dire que ça peut parfois mener au pire. Dans le séminaire Les Noms du Peur, Lacan conclut, il faut être dû, c'est-à-dire collé à la structure, car Les Noms du Peur, c'est peut-être la meilleure façon de maintenir la place vide au cœur de la structure que Lacan écrit, comme vous le savez, point de suspension avant pire dans le séminaire au pire. Alors, quelle place pour la psychanalyse? Je dirais juste quelques mots pour conclure. Il y a du réel dans le savoir. Cela donne l'orientation de la pratique analytique au un par un jusqu'à la différence absolue et les conditions d'une transmission qui ne peut être ni totalisante ni universalisante pour elle-même et pour les autres savoirs. Elle se heurte à l'impossible et à la difficulté même de se faire entendre, puisque Pour ne pas susciter l'horreur de savoir, cela suppose du transfert. Donc le transfert doit donc être premier pour qu'il puisse y avoir une transmission. Donc la psychanalyse, elle ne vise pas à résoudre le malaise. Elle soutient la dimension du sujet, du désir et du manque en tenant compte de la jouissance. Elle est à une place cruciale et unique d'où peut se dégager une éthique et peut-être quelques balises pour s'orienter. Donc, je reprends une expression qui a été dite à Bordeaux, pour s'orienter dans les chicanes du non-rapport sexuel. Lacan en fait même d'un entretien avec Emilia Granzotto, je le cite, le seul rempart concevable contre les angoisses contemporaines. Termine sur une note de...